cultiver le sol. Ouais, c'est bizarre d'avouer que 100 000 euros, non, c'est pas la vie de riche. Des quartiers nord à la Rennerie, de ma vue par Vitry.
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Bienvenue dans cette nouvelle émission des Voix du Scénarium. J'espère que vous avez toujours pris du plaisir à nous écouter. Vous noterez encore qu'il y a eu quelques évolutions, notamment au niveau du générique. Pour commencer cette émission, nous allons nous diriger vers Lyon. Ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook savent que j'ai été au Festival Octogone, un festival dédié aux loisirs ludiques, aux jeux de rôle, aux jeux de société. Bon, bien sûr, moi j'y allais principalement pour le jeu de rôle, un festival qui m'a permis non seulement de rencontrer beaucoup de gens, mais également de faire pas mal d'interviews que vous pourrez retrouver dans les prochaines émissions. Pour commencer cette première série d'interviews, je vous propose d'écouter Jean-Marie Noël, qui a chapeauté la nouvelle édition de La Élite. Avec lui, on fait un retour sur son passé de rôliste et sur cette fameuse édition de La Élite.
Ouais, mais alors on va y passer la nuit, là. Je m'appelle Jean-Marie Noël. Là, on est à Octogone. On est le samedi fin d'après-midi. On a joué toute la journée, c'était très très bien. J'ai découvert le jeu de rôle en 83, a priori, dans des circonstances, comme souvent, un peu inhabituelles. Moi, je travaillais à l'époque au Loto National pour payer mes études. Et à la pause de minuit, j'ai un de mes collègues qui était en train de regarder une feuille avec un dessin dessus. Et je lui demande ce que c'est. Et le type me dit « Je suis en train d'étudier mon personnage pour le jeu de ce week-end. » Oui, c'est-à-dire... Eh ben, c'est un clerc de Ulmo, d'accord. Et c'est quoi Ulmo et c'est quoi un clerc? Bon, donc il m'a expliqué, je trouvais ça intéressant. Et puis il m'a dit, si ça a l'air de te brancher, viens, rejoins-nous et puis viens jouer avec nous le week-end prochain. Moi, j'y suis allé et j'ai un des, enfin, ADD ou DND, je sais plus. Et j'avais un petit personnage d'elfe ou de guerrier niveau 1. Et on descend en bateau une rivière et on se fait bombarder de flèches enflammées par une petite troupe de gobelins qui est sur la rive. Et authentiquement, je suis complètement paniqué à l'idée de me dire, putain, mais on va cramer, mais on va mourir, je vais me noyer, c'est l'horreur, qu'est-ce qu'on peut faire, au secours, au secours. Et les potes à côté m'ont regardé en faisant, ouais, c'est bon, t'es scotché, c'est parti. Et puis depuis, ça m'a plus lâché, quoi. Donc j'aime tellement les mondes de l'imaginaire que voilà, quoi. Ça, je me suis tellement senti dans la peau du personnage, perdu sur sa petite barque, sur son petit bateau en train de crever. Voilà, donc ça m'a porté. Donc du coup, j'ai essayé de trouver des places. Je sortais d'une école d'art. Donc j'ai essayé de trouver des places de graphiste à droite à gauche. Je travaillais un peu dans la pub, des trucs inintéressants. Et puis j'ai visé Casus Belli très vite, très très vite. Et donc dès 85, je pense, 86, j'ai essayé de trouver des opportunités à Casus. Je suis allé voir mon bien-aimé futur rédac-chef. Avec qui j'ai dealé le logo de Casus qui n'existait pas avant puisque c'était juste une typo. Et puis grâce à ça, voilà, j'ai pu me présenter, j'ai fait des petites illustrations, des petits trucs comme ça. Et je ne visais qu'une chose, c'était la place du maquettiste qui était en poste. Et j'avais qu'une envie, c'est que lui piquer sa place, le pauvre Christophe. Si Christophe, si tu m'entends, je te remercierai jamais assez. Parce qu'en fait, il est parti à l'armée. Et donc, je me suis jeté sur sa place. J'ai rencontré le directeur financier. Je l'ai convaincu que j'étais l'homme absolument idéal pour que Casus s'envole vers de nouvelles aventures. Il m'a cru, il a eu raison, je crois, puisque en fait, on a bien bossé ensemble. Et puis, Christophe est revenu au bout d'un an. Je m'étais fait ma place parce que j'étais joueur et lui pas. Et donc il est parti dans un autre titre du groupe et moi je suis resté à Casus. Partant de là, entre 89 et 99, j'ai maquetté X dizaines de numéros en tant que graphiste. X numéros réguliers, X hors série. Tout en continuant à jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais des parties en semaine. On avait un groupe du mardi où on jouait avec quelques petits camarades talentueux que je vois encore assez régulièrement. Je faisais des jeux, bien sûr, le samedi, le week-end, avec ma famille, avec des amis. Puis j'étais très prosélyte, c'est-à-dire que c'est une époque où... c'est moins le cas maintenant, mais où je testais tout ce qui passait. Donc j'ai fait... tout ce qui se faisait à l'époque, Rêve de Dragon, Warhammer, RuneQuest, Hawkmoon, plein de trucs, Cyberpunk, Paranoia, plein de choses. Et surtout le mardi, on expérimentait beaucoup de choses. Et comme on jouait une fois par semaine, ça nous permettait de faire des grandes choses, des longues campagnes. Donc on a fait l'Orient Express pour Cthulhu, on a fait l'Ennemi Intérieur, enfin plein de choses comme ça. Et puis... en 90, entre 88 et 89, j'ai fait une grosse campagne sur la Elite. À chaque fois que je dis ça, ça fait peur aux gens. J'ai démarré avec 12 joueurs. Deux se sont arrêtés rapidement et deux sont morts à l'entrée de la Elite et n'ont pas voulu continuer. J'ai donc fait toute la suite de la campagne avec 8 joueurs, mais ça s'est très bien passé parce qu'ils étaient super motivés, attentifs et tout. Et je rebattais la rédaction avec mon aventure, tout ce que j'avais fait, toute la campagne, tout ça, les aides de jeu que je faisais déjà à l'époque, des cartes, des machins. Et donc, quand il a été envisagé par Didier, mon bien-aimé rédac-chef, de faire une compilation de tout ce qui était sorti sur la Elite, il m'a proposé d'être rédac-chef, ce que j'ai accepté avec un immense bonheur. Et voilà, ça a été la deuxième fois où j'ai vraiment pris en compte ce que j'aimais dans la Elite. Et j'aime énormément de choses dans la Elite. C'est un peu ma ville à moi, quoi. Je suis devenu rédac-chef de ce hors-série. On a bossé jusqu'en 99. En 99, le magazine s'est arrêté. On a eu les déboires qu'on connaît avec des campagnes de médiatisation très négatives, une désaffection totale des académies qui nous ont enlevé les salles qu'elles prêtaient aux gamins pour jouer parce qu'ils étaient satanistes ou je ne sais quoi. Et donc ça a fait beaucoup de mal au lectorat et au futur du lectorat. Et comme tu le sais probablement, le jeu de rôle s'est éteint en partie, remplacé par Magic, remplacé par les jeux massivement multijoueurs, etc., etc. Donc moi, j'ai passé une période creuse en termes de jeu entre 99 et ouais, 2012-2013, où je ne jouais pratiquement qu'en famille ou avec des amis et à un rythme beaucoup moindre. La dernière fois que j'ai compté, quand j'ai fait mon CV de rôliste, la dernière fois que j'ai compté, je me suis arrêté à 600 parties parce que j'arrivais plus à compter après. Alors forcément, quand tu fais une partie toutes les semaines pendant quelques années, bah, ça chiffre très très vite quoi. Donc ouais, plus de 600 parties, ça j'en suis sûr. Alors en tant que MJ ou en tant que joueur, ça dépendait vraiment des fois. Il y avait des jeux sur lesquels je m'étais un peu plus spécialisé, comme Capitaine Vaudou, qui est aussi un jeu que j'adore. Et puis du Donge avec la Elite, bien sûr, ce genre de choses là. Voilà. Et puis en 2000, bah, ça a redémarré pour moi professionnellement dans les années 2015-2016, puisque j'ai fait la maquette d'un petit jeu qui s'appelle Destart chez Matago à l'époque. Et là, j'ai fait que de la maquette, que du graphisme. Et puis chez Léa, j'ai travaillé avec Didier, mon ex-rédac chef, sur Mega, où j'ai managé un peu le projet avec les illustrateurs, avec les auteurs, tout ça. Et puis en 2016, avril 2016, Black Book m'a demandé de repartir sur la Elite, ce qui m'a toujours fait super plaisir. Et sur un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus ambitieux, puisque le projet d'origine était déjà à 600 pages. Faut rappeler que le hors-série d'origine, le hors-série numéro 2 de Casus, qui date donc de 90, devait faire 104 pages, je crois. Donc le projet de base était à 600 pages. Et on en a fait beaucoup, beaucoup plus. Parce que la campagne de précommande a excellemment bien marché. Les paliers ont été nombreux, sont tous tombés. Ça a permis de devenir un projet absolument gargantuesque, comme il en existe peu dans le jeu. On est sur plus de 1100 pages. 1100 pages. On est sur une trentaine de produits, entre 30 et 40 produits si on compte bien. J'ai managé 30 auteurs, 30 co-auteurs. J'ai écrit moi-même un peu, j'ai cartographié, j'ai... Bon, c'est un projet complet, quoi. C'est 15 illustrateurs aussi, plein de gens qui sont intervenus, sur lesquels il fallait faire des briefs, présenter, expliquer, donner le concept, tout ça. Un boulot qui, en général, fait peur aux gens en se disant « mais ça doit être infernal à gérer ». Eh ben non, pas tant que ça. Parce que le principal, c'est d'essayer d'avoir un peu d'humanité avec tout le monde. Je n'y réussis pas tout le temps, je ne vais pas dire le contraire. Mais néanmoins, essayer de faire en sorte que tout le monde se comprenne et que tout le monde avance dans la même direction. Donc une fois que la Bible est écrite, que tout le monde l'a lu, que tout le monde fait sa proposition par rapport... Donc un principe de synopsis hein, qui va en résumé indiquer ce que l'auteur a envie de développer. Et puis après, on regarde le synopsis, on le valide, et puis après, l'auteur écrit son texte très librement une fois qu'il reste dans le cadre qu'on a défini. Je réceptionne le texte, je regarde, je vérifie essentiellement les questions de cohérence, parce que d'un auteur à l'autre, il se peut qu'on se retrouve avec deux fois la même idée qui n'était pas patente dans le cadre du synopsis, mais qui dans le cadre du développement apparaît, et mince zut, on a deux fois la même idée sur deux endroits différents, donc il faut faire sauter tout ça, arranger. Donc ça fait souvent l'occasion d'une V2, et puis la V2 je la relis en diagonale, et puis après ça part en secrétaire de rédaction, et puis après ça part chez l'éditeur, soit c'est moi qui maquette, soit c'est lui, bon, etc. C'est toute une grosse organisation. La Elite, c'est un an et demi de boulot, hein, donc c'est alors pas en permanence, mais sur la longueur. Mais c'est mon bébé. Alors c'est ridicule de dire ça, je sais bien, mais voilà, je le dis dans le bouquin, c'est que c'est un truc qui m'a accompagné toute ma vie, quoi. J'ai joué dans la Elite, j'ai conçu, j'ai fait évoluer la ville, puisque dans cette nouvelle version là, on a des concepts plus contemporains que ce qu'on avait avant. On a un camp de migrants à l'entrée. On a des choses comme ça qui rappellent et qui peuvent éventuellement permettre aux joueurs ou aux maîtres de jeu d'instiller un certain nombre de notions qui pour moi sont importantes dans les relations humaines. J'ai créé l'impasse de l'arbre de Tulé dans cette optique là. J'ai voulu qu'elle raconte une histoire qui me ressemble en fait, qui soit assez proche de moi et des idées que j'essaye de partager avec plein de gens. Voilà. Parce que mine de rien, on parle du jeu de rôle comme un divertissement tout le temps, mais n'oublions pas que ça permet aussi de délivrer des messages, de faire passer des idées. Et c'est pas qu'un amusement à la con, c'est aussi faire participer des gens dans des relations humaines à des choses auxquelles vous croyez et que vous emmenez les gens avec vous sur un certain nombre d'idées qui partagent, qui partagent pas, et auquel cas bah il y a débat, il y a discussion entre personnages interposés. Mais la vérité du fond de l'homme, elle est là, elle est dans les idées qu'on partage ou qu'on ne partage pas mais qu'on défend. Et ça pour moi, c'est un truc important dans le jeu.
Et du coup, la élite, c'est quoi ?
Alors, la élite, c'est quoi ? C'est la plus belle cité médiévale du monde. Non, il y a l'Ankmar, il y a plein de choses. En tout cas, c'est une création française, déjà. Et ça, c'est un truc un peu exceptionnel. Une création française qui dure depuis pas mal d'années, puisque énormément de joueurs sur... Allez, je vais pas dire des générations, parce que c'est pas le cas, mais sur de nombreuses années, on jouait avec, on jouait dedans. Et le gros avantage de cette version, c'est que bah, elle va leur donner encore plus de possibilités de jeu, puisqu'il y a énormément de choses, énormément de produits différents, de scénarios, de campagnes, de choses. Qu'est-ce que c'est que la Élite ? C'est une ville perdue dans une zone anciennement volcanique, donc montagneuse. C'est une ville inspirée de Constantine, un peu byzantine, un peu arabisante sur les bords, mais tout en étant médiévale fantastique. C'est ce qu'on appelle de la low fantasy, puisque on est sur une implication magique assez faible, assez raisonnable. Et la grande particularité de cette ville, c'est que c'est une ville perdue au bout du monde, très difficile à atteindre, mais qui est une ville de pèlerinage. Et on va à la Élite en tant que prêtre, par exemple, pour aller y installer son dieu dans un des temples existants. Il existe 4 temples à la Élite qui représentent les 4 éléments. Le tableau de Mendeleïev est passé depuis, mais là, en tout cas, on est sur les 4 éléments. Donc, la terre, l'eau, le feu, l'air. Chacun a un nom, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, quand vous êtes prêtre et que vous arrivez au bout de votre pèlerinage dans la ville de la Élite, vous venez déclarer votre dieu, votre religion à l'un de ces 4 temples. Et à partir de là, votre religion est reconnue comme une des religions du monde connu. Alors bien sûr, c'est le cas des religieux qui viennent là, mais c'est le cas des commerçants qui vont venir ici aussi et qui vont profiter de la manne que représente une ville de pèlerinage. On voit bien des villes comme Lourdes, comme la Mecque, qui sont des villes qui attirent du monde et donc forcément font du commerce. Et ça attire bien évidemment des aventuriers qui sont là pour profiter d'opportunités, un peu mercenaires, pour résoudre des problèmes, des enquêtes, etc. Et là, on se retrouve dans un cadre classique, un univers de jeu médiéval, fantastique, low fantasy, qui permet plein de choses. Alors, il y a des quartiers différents. Je ne vais pas rentrer là non plus dans le détail, mais il y a 7 quartiers, 6 en surface, 1 en dessous, en souterrain, plutôt mal famé. La ville est traversée par une grande faille, c'est pour ça qu'on fait référence à Constantine, puisque la ville est ainsi faite. Séparée par une grande faille, qui est le déversoir d'un lac, qui est le lac d'Altalite, qui est au bord de la ville. Ce lac, par l'intermédiaire d'une rivière et d'une grande faille, coupe la ville en deux, parce qu'à une époque, il y a longtemps de ça, la ville a subi un châtiment. Alors, il est expliqué dans le bouquin pourquoi, comment, qui a complètement perturbé la ville et qui l'a cassée en deux et l'a soulevée complètement. Ce qui fait que du bas de la ville jusqu'au haut de la ville, on a une déclivité de 900 mètres. C'est-à-dire que la ville est très, très, très penchée et que donc les rues sont appelées des échelles et que les quartiers sont appelés des terrasses. Et donc, dans la Élite, vous avez une urbanisation foisonnante, très labyrinthique, et perclus d'escaliers, d'échelles, de petites ruelles tortueuses qui grimpent. Il y a très peu d'artères principales, il y a vraiment beaucoup de petites choses planquées à droite à gauche. Et il y a de l'ambiance à Octogone, c'est toujours bien. Il y a un jeu qui vient d'arriver là et un meneur de jeu qui vient avec. Donc c'est une ville qui permet beaucoup d'exploration, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de possibilités politiques aussi, puisqu'il y a un roi dieu qui est à la tête de cette ville, qui est issu des temples, qui est un des quatre grands prêtres des temples et qui règne en maître sur la ville. Et puis il y a toute une organisation qui est excessivement développée. Donc chaque quartier de l'Aelit est développé sur 48 pages, ce qui permet à chaque fois d'avoir une vue générale, un petit texte d'ambiance de deux pages qui donne un peu la couleur du quartier, puis qui après s'enchaîne par une cartographie qui montre le quartier et certains lieux spécifiques, et puis après on enchaîne par des organisations, des lieux spécifiques, des PNJ, tout ça sur des pages et des pages et des pages, des fêtes, des maladies, des monstres, des coutumes, plein de choses qui détaillent chacune des spécificités des quartiers, sachant qu'on a un quartier marchand, un quartier artisan, un quartier intellectuel d'université, etc. Et on finit chaque description de quartier, de terrasse, par un gros scénario. Ce qui fait que, avec le bouquin de base qui fait la bagatelle de 550 pages, rien que la table des matières fait 6 pages à elle toute seule, c'est vous dire s'il y a de la matière. Avec ce bouquin-là, on a déjà 7 scénarios. Et à côté de ça, on a une campagne, on a un joli petit scénario sur un livret spécifique qui a été fait par l'ami Maxime Chattam, qui est, hormis l'auteur qu'on connaît, un rôliste, mais tous les gens qui connaissent un peu BBE savent que Maxime est rôliste et un personnage absolument adorable, ceci dit en passant. Qu'est-ce qu'on a ? On a une campagne, grosse campagne, qui s'appelle L'Ultime Châtiment, qui est une campagne faite par Alexis Flamand, une belle grosse campagne. Et puis il y a plein de livrets, plein de choses, il y a des esquisses de scénarios partout. Donc avec une gamme comme ça, que vous achetiez la totalité ou juste le livre de base et un ou deux suppléments, vous avez des heures et des heures de jeu. Petite précision dernière, on a conçu le livre comme hors système, parce qu'on voulait un livre qui raconte des histoires et qu'on ne soit pas perturbé dans la lecture par trop de techniques. Donc pour ça, on a mis la technique dans un livret à part, et la technique est consacrée aux deux systèmes existants de Black Book, à savoir Chroniques oubliées Fantasy, et puis au moment où nous l'avons fait, et à Héros et Dragons, qui n'est plus d'actualité mais qui sera remplacé facilement par quelque chose, probablement Roll and Play, quelque chose qui soit compatible avec la 5e. Donc voilà, avec ce gros bouquin, ce livre de règles et éventuellement une campagne ou le scénario de Maxime, vous avez des kilotonnes d'heures de jeu, et ça m'inquiète vraiment pas. L'ensemble a été un beau succès. Le nombre de participants à la précommande a été très élevé. Ça a permis de faire énormément de choses. Et je suis vraiment super fier d'avoir fait ça dans ma vie.
La dernière question éventuellement, mais je pense qu'il y a déjà suffisamment répondu. Si on devait convaincre quelqu'un d'acheter l'Aelit plutôt qu'autre chose.
Ah, c'est vachement difficile comme question. Et puis alors, je suis franchement juge des parties. Donc, je sais pas. Un assaut de créativité, peut-être. Je pense que pour quelqu'un qui veut aller loin dans le détail d'une ville, il y a énormément de renseignements. Donc, pour celui qui veut un cadre médiéval fantastique, solide, très argumenté, très cohérent, bien écrit évidemment, parce qu'on a beaucoup bossé sur la qualité de l'écriture, c'est un choix. Alors, c'est pas un choix incontournable, parce qu'il y a des tas d'autres choses, mais bon, c'est une production française, c'est ça a peut-être un petit esprit petit esprit français, je sais pas si ça s'analyse, ça faudrait demander à des gens qui je sais pas, des sociologues peut-être, qui seraient capables de dire voilà, ça c'est un trait typiquement français dans un univers médiéval qu'on ne retrouvera pas chez Tolkien ou chez Moorcock ou je ne sais quoi. Il y a peut-être des choses qui sont typiquement de chez nous qui transparaissent. Là, je sais pas du tout, j'ai pas cette notion là, mais ouais, avoir une ville très fouillée, très cohérente, avec énormément de renseignements, mais qui demande du coup énormément de temps pour s'en imprégner. Celui qui est partant sur une grosse aventure comme ça, vas-y mon pote, ça va être vraiment très très bien.
Un grand merci à Jean-Marie Noël pour s'être prêté au jeu de l'interview. Une interview un petit peu longue, mais tellement instructive. Je l'aurais laissé parler des heures si j'avais pu faire des... Je pense qu'il aurait été intarissable sur le sujet. L'élite est disponible chez son éditeur Black Book Edition sur le site ou dans votre boutique favorite de jeux de rôle. Pour ceux qui ont envie de découvrir le jeu de rôle, sachez que depuis quelques temps, il y a des gens qui commencent à proposer de faire des parties rémunérées chez soi. On peut louer un MJ, un maître de jeu, pour pouvoir faire des parties à son domicile. Sachez que vous pouvez louer Jean-Marie pour faire des parties. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette activité sur jmmj-jeuderole.fr. Faut savoir que c'est des choses qui sont tout à fait abordables et je pense qu'avec quelqu'un qui a un vécu et un bagage rôlistique aussi important que lui, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a largement de quoi faire et ce sera forcément rentable peu importe la somme que vous allez y investir. Je redonne les références jmmj-jeuderole.fr pour plus d'informations. Et on va pouvoir revenir sur notre partie de l'appel de Cthulhu. Pendant que nous installons le monde et chauffons le scénarium, ou l'inverse, nous vous invitons à une légère pause musicale avec une chorale qui reprend Death to the World, un ode à Cthulhu. Comme quoi, tout peut être créatif. Ce soir, nous retrouvons les voix dans une situation à nouveau délicate. Résumons un peu. Écosse, année 1900, un lord, son intendant, son psychanalyste et un journaliste sont en partance pour l'inauguration d'une distillerie. Lors du voyage en bateau, une tempête se déclare, laissant ces braves gens échouer sur une île loin de leur destination. Après avoir rallumé un phare, ils se sont engouffrés dans une chapelle antique. Dans cette chapelle, ils découvrent un passage secret menant à une sombre cave. Après plusieurs mètres de descente périlleuse, les voici qui atteignent le sol. À descendre, tu regardes autour de toi et effectivement tu n'as que la lueur de ta lampe sur toute la surface que tu peux voir. Tu sais pas où sont les bords.
Bah, je m'écarte
par contre, la chose que tu constates, c'est que l'échelle est seule au milieu de rien.
Ah,
donc, là où tu avais la paroi qui était accrochée, là tu n'as plus que ton échelle avec tes arcs-boutants.
D'accord, bah avec ma lanterne, je passe derrière quand même pour voir si c'est quoi, c'est un pilier au milieu de rien finalement.
Tu as juste une échelle qui monte vers rien au départ. Effectivement, quand tu regardes en haut, tu distingues à peine le plafond et l'ouverture dans laquelle l'échelle s'engouffre.
Bah, j'éclaire au niveau de mes amis également, comme ça au moins je leur éclaire les échelons pour la fin. Vous n'êtes plus qu'à quelques dizaines de mètres. Enfin, si je les vois, évidemment.
Effectivement, tu commences à distinguer. Ils commencent à descendre.
Ouais. Puis je surveille autour de moi en même temps, je donne un petit coup de lumière tout en les éclairant.
Ok, donc la lumière elle porte pas super loin et tu distingues assez peu en fait ce qu'il y a autour. La seule chose que tu remarques, c'est que le sol commence à être un petit peu plus recouvert de liquide. Il y a une espèce de film humide sur le sol. Tu le sens, ça fait un peu flic-floc quand tu marches.
Je donne un petit coup de pied par terre pour voir si le sol est bien rigide tout autour.
Le sol est bien sec, bien rigide. Enfin, pas sec, mais il est bien solide sous ton pied. Mais tu as simplement une espèce de fine couche d'eau qui semble recouvrir tout le sol autour de toi.
Très bien. Je m'écarte et j'attends que mes compagnons descendent. J'ai une madame une fois arrivée. Je crois que nous avons trouvé une espèce de grande caverne, à ce que je vois.
Pas très accueillante, cette grande caverne.
Ah, toujours plus que cette chapelle, c'est en passant. Ouais.
Effectivement, il y a un peu plus d'écho au mesure que vous parlez dans cette chapelle. Donc vous êtes, Mylord, est redescendu avec eux?
Bah, dès que j'arrive, ouais, je me terre aussi. Mm-hmm. Surprenant.
Je pense qu'on a vous avez pris les trois autres lampes, de toute façon, on a changé les autres.
Oui,
Les dimensions sont quand même assez impressionnantes pour une cavité souterraine dans un apic comme celui-ci.
Au vu de tout ce que nous avons descendu, je me demande si nous ne sommes pas simplement en dessous du niveau de la mer même.
Très probablement.
Ce qui est inquiétant.
Certainement même.
Il n'y a que de l'humidité au sol, c'est bizarre. Nous serions dans une caverne souterraine.
Oui.
Il n'y a pas de communication avec la mer, c'est déjà ça. Faisons des tours déjà pour voir jusqu'où mène cette grotte. Peut-être nos amis sont-ils là. Bah, je l'espère.
Vous commencez à faire le tour de la grotte. Alors vous faites tous, vous restez en groupe ou vous partez
Non, moi j'observe un peu.
Dispersons-nous un petit peu.
Oui, dispersons-nous. Écartons-nous.
De toute façon, tant qu'on reste à vue au niveau des lumières, ça devrait être bon normalement.
Oui.
On pourrait tous partir de l'échelle, prendre une direction, et une fois qu'on a touché le bord, on sait que c'est la fin de la grotte.
Et si il y a un trou et qu'on entend plouf,
c'est qu'il y avait un trou dans le fond sol et.
Mais en fait, on se disperse un peu au hasard déjà pour chercher. Je crie un peu comme Mylord. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Là, vous entendez l'écho de votre propre voix qui est réverbée par les parois de la.
Il y a quelqu'un qui me répond. Il a la même voix que moi.
Et vous commencez à vous approcher. Effectivement, vous finissez par distinguer des espèces de parois. Elles ne sont pas entièrement lisses. C'est plutôt abrupte. Ça a pu avoir été creusé par le temps. Pas par quelconque outil. Et puis de part et d'autre, vous commencez à distinguer des espèces de petites luminosités qui commencent à apparaître. C'est une espèce de cristaux qui reflète un peu la lumière de vos lampes.
Comme du quartz ou quelque chose
comme ça
qui serait intégré dans la roche.
C'est ça. Et puis, Monsieur Harrington. Monsieur Harrington dit « Oh, moi j'ai trouvé quelque chose
!»
Et en fait, tu tombes face à une espèce de stèle, une espèce de gigantesque bas-relief qui fait, 3 mètres de haut à peu près.
Il nous reparle d'un phallus, je me casse.
Non, c'est pas un phallus, ça représente une espèce de créature humanoïde.
Ah oui.
C'est pire.
Vaguement
l'impression de voir une espèce de créature aquatique, une sorte de grenouille, mais qui aurait les tentacules en bas de la bouche et qui semble dotée d'ailes de chauve-souris.
Ah, vous qui connaissiez les kelpies, Mylord, est-ce que ça y ressemble ?
Qu'est-ce que c'est ?
Je m'approche.
Une espèce de grenouille tentaculaire, ailée. Une chauve-grenouille.
C'est d'une laideur, mais...
C'est ce qu'on appelle de l'art ?
La stèle est ancienne, gravée, enfin, ça a l'air récent, ça a l'air poli par le temps, c'est...
Ça a l'air poli par le temps, ça a l'air d'être très très vieux, tu saurais pas donner un âge à ça.
Peut-être des milliers d'années.
Peut-être.
En tout cas, ça ne ressemble à rien de nos mythes et légendes.
Mais ça vous travaille l'estomac, hein. Et vous avez pas une espèce de nausée qui monte et une quinte de toux en même temps, et... Vous toussez, et effectivement, vous avez une espèce de liquide légèrement salé qui vous sort à chaque fois que vous toussez.
J'ai dû avaler, ça doit être l'eau de merde, on a dû boire la tasse. Je prendrais bien tout de même une photo de ce... Je crois que mon article est en train de prendre une dimension assez spectaculaire, peut-être même archéologique. Peut-être avons-nous trouvé quelque chose d'intéressant, à moins que ce soit un mythe de la région.
Je ne pense pas, ça ne me dit absolument rien, ou alors quelque chose de tellement ancien que ça ne fait pas partie des connaissances... Rituel.
Regarde si moi ça c'est magnésium pour prendre encore
tu
une.
Tu peux refaire deux photos encore avec ta réserve de magnésium.
Allez-y, mettez-vous autour, je vais vous prendre en photo et ça fera. Peut-être allons-nous faire une grande découverte.
J'essaie de me nettoyer un peu ce qui est salé avant d'avoir la photo.
Je bois une petite flamme.
Ça vous reste dans la bouche, hein, c'est.
Ah, une petite gorgée de whisky à chaque fois que j'ai le goût salé, comme ça au moins ça me le passe. Puis je prends ma photo de ces messieurs-dames posant fièrement autour de la statue de la chauve-grenouille, c'est ça ?
Chauve-grenouille.
Nous trouverons un nom plus approprié plus tard, parce que pour l'article, j'ai un lectorat au Hérald.
Je vous fais confiance là-dessus, c'est votre métier après tout.
Les symptômes qu'on a, ça me parle, enfin, par rapport à l'empoisonnement au mercure, c'est quelque chose qui est associé ou pas du tout ?
Absolument pas. Les régurgitations de ce qui ressemble à de l'eau de mer telle que vous avez, c'est plus proche des syndromes de la noyade.
Ouais.
Ouais, on a dû boire beaucoup d'eau. Oh, j'ai trouvé un nom pour votre chauve-souris. Je vais l'appeler Bob, je pense. Donc, j'ai une photo de Bob.
Tu fais ta photo. Mm-hmm. Donc, tu as tes trois camarades qui sont Bonnie, Monsieur Harrington et Mylord qui sont en train de poser de manière conquérante autour de cette statue, de ce bas-relief. Et tu fais ta photo. Mm-hmm. Et au moment où tu fais ta photo, tu remarques une chose. C'est que la lumière, elle n'est pas absorbée de la même manière par l'environnement. Tu as des compétences en photographie,
oui.
Et tu as l'impression qu'il y a une zone un peu plus sombre derrière, comme si tu avais éclairé un petit peu derrière ce bas-relief.
J'allais voir, du coup, je vais avec ton poser la main, toucher, c'est voir s'il y a quelque chose derrière d'étrange avec la lampe.
On est effectivement,
attends,
en regardant...
Il y a quelque chose de bizarre, messieurs.
En regardant, tu te rends compte que le bas-relief doit dissimuler une sorte de goulet sur l'extérieur. Tu as dû avoir une réverbération de quelques cristaux que tu as pu voir autour suite à ton flash. Et quand tu regardes un petit peu au sol, effectivement, tu remarques des traces qui fait que ce bas-relief peut être bougé.
Si on le bouge également.
Décidément, messieurs.
Encore un passage secret.
Passage secret dans un passage secret, voilà, qui est cocasse.
Bien qu'étrange, cette aventure est néanmoins plutôt passionnante, je pense. Si...
C'est à la fois excitant et effrayant.
Je suis pressé de... Peut-être que c'est comme ça que les grands aventuriers de nos livres vivaient tout ça. Ils étaient effrayés et en même temps fascinés. Mais j'ai quand même hâte de quitter cette île et ce goût dans la bouche devient vraiment insupportable.
Oui.
Commence à me demander si nous allons retrouver nos gardiens de phare par ici. C'est vraiment très étrange.
Je me suis demandé si cette statue fait un côté très religieux. Et peut-être font-ils partie d'un culte secret, un culte de Bob.
En tout cas, très certainement, les figures à travers les âges, ce genre de statue en tout cas, étaient probablement liées à un culte. Donc, après, quel est-il ?
Croyance païenne.
Oui.
D'autrefois.
Peut-être des anciens déesses celtes.
Vous qui avez des compétences en histoire, est-ce que vous êtes capable de... dater, ce serait un grand mot, mais d'imaginer à peu près quand est-ce que ça a pu être fait.
Pour moi, ça date du temps de la préhistoire.
Oh, c'est vieux.
C'est très vieux, très ancien.
Bob est si ancien.
En tout cas, je vous le redis, ce genre de statue ne me dit absolument rien. Je n'ai pas connaissance de ce type de représentation dans notre histoire.
Mmh. Allons-y, essayons de tirer. Je suis curieux tout de même de voir ce qu'il y a derrière. Peut-être trouverons quelque chose. Peut-être trouverons-nous nos amis déjà.
Très bien.
Peut-être allons-nous affronter un rituel secret. Ah, ça fera un super papier. Néanmoins, nous n'avons
ça
rien.
Ça fera un super scénario.
Je suis en train de penser à une chose. Nous n'avons rien sur nous pour nous défendre.
Nous défendre ?
Mais nous défendre de quoi, enfin ?
Si nous trouvons un culte, si nous trouvons un culte secret.
Vous avez beaucoup d'imagination. Vous êtes venu visiter une distillerie.
Et pour l'instant, nous sommes face à une statue d'un homme millénaire. Écoutez,
en tant que thérapeute, psychanalyste, mon arme est la parole.
D'accord, vous passez devant alors.
Vous avez beaucoup d'imagination, alors, monsieur Ford, c'est ça ?
Oui, c'est Stanford.
Stanford, pardon.
Excusez-moi, c'est mon côté un peu parano des fois.
Moi, je peux vraiment. Tirons cela et.
Allons-y. Et,
allez-y, commencez.
Bon, déjà, on va ouvrir.
Ouvrons.
Vous faites pivoter le bas-relief sans grande difficulté. C'est comme s'il était vraiment pivoté souvent, en fait. Il y a une espèce de glissement qui se fait. Mm-hmm. Et puis vous commencez à aller dans une espèce de goulet qui n'est pas très large au départ, fait un petit peu moins d'un mètre de large. Et vous avez cette espèce de luminosité en fait qui est réfléchie par vos lampes, par ces espèces de petits cristaux, ça rend la traversée et le passage de manière assez fluide. Ça vous met pas de grand stress. La principale difficulté, c'est que ça monte en légère pente et vous avez cette espèce de liquide un petit peu partout sur le sol et du coup ça glisse un petit peu. Donc faut de temps en temps se raccrocher sur les côtés pour pouvoir avancer et vous progressez. Vous avez pas le temps que ça passe. Et à un moment, vous voyez une espèce d'ouverture, vous sentez les embruns, et vous arrivez sur une espèce de petite plage. Tout autour de vous, c'est une espèce de grande cavité granitique.
Oh. Et on voit la tempête, l'orage et...
Le temps a l'air d'être assez calme.
Hein ? Attendez, nous sommes partis il y a quelques minutes, là.
Oui, la cavité, elle donne déjà sur l'extérieur ou on ne voit pas l'extérieur ?
La cavité donne sur l'extérieur. Vous avez une espèce de plage de galets, de rochers.
Il fait jour.
Ça fait la taille du poing, un petit peu.
Une sorte de grande grotte.
En signe d'activité humaine, vous remarquez en fait que sur les parois de cette grotte sont fichés de gros anneaux en métal, pas mal rouillés.
Pour amarrer les bateaux.
Pour amarrer un navire, oui.
Et amarrer les navires, ouais, je sais pas. Là, en tout cas, sont amarrés deux hommes.
Ce que j'allais dire, ça serait pas pour faire des sacrifices.
Vous avez un homme qui est en pantalon pieds nus, le t-shirt trempé. Il a l'air transi de froid. Il marmonne dans sa voix. Vous savez pas trop ce qu'il raconte. Il y a des morceaux de bois par terre. Il y a divers objets un petit peu partout. Et il y en a un, du coup, la personne avec le t-shirt est sur votre droite, et de l'autre côté, vous reconnaissez le mousse de votre navire.
Ah, d'accord. Ils sont loin du sol ?
Non, ils sont accrochés au sol, en fait. Les anneaux sont sur la paroi, mais ça leur met les mains en hauteur. Ils sont mi-genoux, en fait. Le mousse semble inconscient.
Je me précipite pour essayer de les aider, de les détacher.
Ouais, j'ai une question subitaine, mais il fait jour ou nuit dehors ?
Il fait jour.
D'accord, donc la clarté est bien éclairée finalement.
Oui.
D'accord, je vais poursuivre sur la deuxième personne en même temps pour voir.
Les anneaux sont à quelle hauteur à peu près ?
1m50 à peu près.
Ouais.
C'est de gros anneaux. Le bas de l'anneau est à 1m50. L'anneau en lui-même fait peut-être 1m50 de diamètre aussi.
Ah oui, c'est vraiment c'est des gros anneaux.
La configuration de la grotte est telle que la mer rentre une fois à marée haute ou pas ?
C'est fort probable.
Ouais, il y a des stalactites caractéristiques d'une grotte qui est souvent sous l'eau. Quoi.
Tout à fait.
En effet, ça fait très sacrifice.
Il y a la partie galet en fait, de la plage. Tous les déchets sont sur une certaine zone et tu penses que ça ne va pas au-delà. Là, en fait, en remontée.
La ligne des marées.
Et ils sont attachés aux anneaux de quelle manière ?
Avec une corde.
Corde.
Okay. Moi, j'essaie de détacher la corde auprès de celui qui est conscient tout en essayant de lui parler. Qu'est-ce qui se fait passer ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Il est conscient, mais il a l'air de divaguer. Tu arrives à le calmer. Tu utilises des compétences que tu as apprises. Tu le prends, tu le regardes bien droit dans les yeux. Il essaie de discuter. Et, les hommes grenouilles. Ils nous mangent. Mes collègues, Les autres, ils sont dans la mer. Et puis, il repart à balbutier. Tu sais pas vraiment ce que...
Cet homme est complètement délirant. Bon, j'essaie de le détacher.
C'est votre spécialité. Nous allons voir le mousse. Déjà, allons détacher notre mousse, déjà pour savoir où est notre capitaine. L'homme pourrait être l'autre, le premier qui est parti voir M. Harrington pourrait être un des gardiens de phare, du coup.
C'est probable.
Le mousse est complètement inconscient, vous savez pas depuis combien de temps. Vous essayez de le réveiller sans vraiment grand succès.
Déjà, il respire, il a un pouls.
Il a l'air de respirer. Son pouls est assez faible. Vous regardez un petit peu au sol, il y a des restes de vomissements. Comme si, effectivement, il avait bu la tasse plus que de mesure et qu'il avait quand même réussi à reprendre conscience en se vidant.
Soit on peut détacher la corde et je détache, si c'est pas possible, je sors mon couteau clanique.
Ah, il va falloir le couteau
pour,
parce que.
Le couper.
Ouais.
Enfin, pour couper la corde, pardon.
Parce qu'effectivement, M. Harrington s'en rend compte aussi, l'humidité et tout a resserré complètement les liens et ils ont presque la peau à vif en fait.
Oui, il doit avoir de sang dans les mains. Surtout.
C'est ça.
Donc dans ce cas-là, j'essaie de trancher sans le blesser ou en tout cas le moins possible.
Alors t'essaies de faire attention pour. Partir vers l'anneau, mais sans poser ta lame dessus, parce que tu tiens quand même pas mal à ton couteau.
Bah oui, quand même, ouais.
Et vous arrivez à les détacher.
D'accord.
Denis, est-ce que tu fais quelque chose ?
Eh bien, moi, je suis avec monsieur Harrington et j'essaye de comprendre ce que nous dit le potentiel gardien de phare.
Ok, il est en train de balbutier, c'est des syllabes, c'est pas très intelligible.
C'est vrai qu'une bonne femme pourrait peut-être le rassurer.
T'essayes.
Sait-on jamais.
T'essayes de le cajoler un petit peu, de l'apaiser. T'as pas l'impression que ça marche vraiment. Il a dû subir quelque chose qui est pas courant.
D'accord.
Enfin, ça l'a ébranlé mentalement fortement. Monsieur Harrington.
À l'époque, il y a quand même beaucoup d'hypnose dans ces milieux-là psychanalytiques. Oui. J'ai de voir s'il a été mis sous cette emprise-là ou si moi, en essayant des petites techniques, je pourrais essayer de le faire redescendre à nouveau.
Ça s'appelle des baffes dans la tête.
T'essayes de le canaliser un petit peu, t'essayes effectivement d'utiliser des techniques hypnotiques pour pouvoir récapter son attention. T'as des moments de lucidité dans ses yeux. Tu penses que c'est pas dû à une manipulation mentale, mais que c'est vraiment lui qui peut-être s'est réfugié dans cet état pour échapper à quelque chose.
Messieurs Bonny, il se passe quelque chose de pas net ici. En tout cas, ils étaient attachés. Je n'ai pas très envie de rencontrer ceux qui les ont capturés. Je vous propose que nous sortions très rapidement.
Je pensais aller voir la sortie de la grotte si vous voulez me suivre pendant que.
Je peux essayer la sortie de la grotte, parce que je vois effectivement un énorme problème, c'est que ces hommes ne sont pas en état de grimper une échelle pendant 5 minutes.
Mais l'homme inconscient est-il assez léger pour vous le portiez, vous qui êtes costaud ? Est-ce qu'il peut être mis en sac à patates sur l'épaule ?
Ça risque d'être tendu.
Alors, en plus, je suis grand et assez fort, mais par contre, pas forcément fort au sens puissance physique.
Il faudra soutenir l'autre aussi.
Centre de gravité assez bas.
Il faudra soutenir l'autre aussi, il n'est pas capable de marcher.
Déjà, je vous propose, c'est que l'un d'entre nous aille voir tout simplement, parce que s'il y a les ravisseurs, ce serait bien qu'on ne sorte pas tous ensemble.
Mais comme on sait que, en fait, potentiellement, il y a des ravisseurs, pourquoi les deux plus armés ne sortent pas pendant que les autres se surveillent les otages ?
Le seul homme armé, c'est M. Harrington. Il est armé de sa parole. Il l'a dit tout à l'heure. Donc c'est lui qui sort en premier.
Mylord a son couteau clanique.
Ah oui, c'est vrai. Son cœur d'en clanique, allez-y.
Et je peux vous prêter un briquet.
Je vous faire un jet de trouver objet caché, s'il vous plaît.
Ça ne passe pas.
Ça passe.
J'ai fait un petit 7.
Ok.
Joli.
Bonny.
J'ai fait 99.
Raté. Ah, c'était un échec critique.
Tu t'es bouffé un mur.
je me suis pris la robe dans un galet et je me suis.
J'ai trouvé un caillou.
Monsieur Stanford et Mylord, vous remarquez deux choses. Alors, Monsieur Stanford, regardez un petit peu la composition un peu de l'image qu'il avait devant les yeux, cette espèce de petite crique de caillou. Et tu remarques qu'il y a. Une inscription sur un des morceaux de bois, et tu vas t'en rapprocher pour essayer de lire l'inscription.
Je lis l'inscription.
Il s'agit du Brimming Kelpit.
Oh.
C'est très effacé par le temps.
Les gros mots en anglais sont-ils acceptés?
Allez, vas-y.
Oh, shit.
Holy
monsieur,
shit.
Monsieur Harrington, je pense que ça va vous intéresser.
Oh, je viens. Attendez, montrez-moi ça.
Allez-y.
Ah, oh, mon Dieu.
Tenez, regardez.
Holy shit.
Suivant.
Et effectivement, c'est partiel. C'est l'ouvrage, enfin, le morceau de bois n'est pas complet, mais vous distinguez effectivement assez facilement le nom du navire qui était mentionné dans l'article.
Ça me fait une planche de bois, du coup.
My Lord, vous, ce que vous distinguez est un petit peu plus concret. Vous remarquez que il y a une espèce de voie qui a l'air de passer sur la droite de cette plage. Une espèce de chemin qui va pas... Ça fait pas plus d'un mètre, 1,50 m de large. C'est assez, assez étroit. Et ça semble contourner la paroi granitique.
Et ça pourrait mener vers la sortie de la grotte.
Nul moyen de le savoir avant d'avoir essayé.
J'ai peut-être trouvé une issue.
Ah, bah attendez, on va se rapprocher un petit peu. Moi, j'embarque ma planche. Mon bout de bois, il est lourd ou pas?
C'est quasiment du bois flotté maintenant, donc ça pèse pas grand-chose.
Et c'est long de combien à peu près? J'ai quoi, 1 mètre, 2 mètres?
Ça fait, à peine 1 mètre sur 50 centimètres.
Ah, moi qui pensais avoir un surf. Bon, au pire, j'embarque mon bout de bois quand même. Hors de question que je...
Oui, prenez-le.
Ce serait une preuve.
Le mousse, il est pas bien. Enfin, c'est un jeune homme, il est pas...
Oui, c'est un jeune homme, il a pas encore 18 ans.
Ouais, quand même.
On peut peut-être le mettre sur la planche de bois. Ça peut faire une civière.
Personne n'abîme.
Elle risque de briser sous le poids.
Oui, c'est du bois flotté.
Bon, on peut essayer de le porter. Enfin, chacun, on les supporte à deux, on prend. Mmh.
Pour l'instant, déjà, je propose, ce serait de les laisser là et d'aller explorer ce fameux chemin. Déjà, juste voir où ils mènent avant d'aller les chercher.
Ça voudrait dire qu'il faudrait y aller. Si c'est la sortie, on fait demi-tour, on les ramène.
Au risque, peut y aller. Au pire, il est armé.
Le risque, c'est de... Plus le temps passe, plus les ravisseurs peuvent revenir.
Et plus l'eau monte.
En espérant qu'ils n'arrivent pas par ce chemin.
C'est... Moi, je propose d'y aller avec nos hommes.
Bon, ben, on va trimballer tout ça. Par contre, on va être deux pour emporter un seul. Allons-y gaiement.
Vous commencez à arpenter ce petit chemin. Ça fait bizarre parce que vous avez quasiment l'eau qui vient de temps en temps taper dans vos pieds. Mm-hmm. Mais c'est stable.
Vous aviez raison, la marée est déjà en train de monter.
Et vous commencez à avancer. Et ça fait une espèce de courbe assez légère. Et petit à petit, vous vous rendez compte que ça va probablement vous ramener au pied de la petite plage sur laquelle vous avez débarqué.
Ah ben voilà.
Quel hasard.
Nous avons bien fait.
J'ai une planche pour reboucher le trou du bateau.
Est-ce qu'on essaierait de retourner au phare
Bah déjà, il fait jour, il n'y a plus la tempête, c'est ça. Donc on va pouvoir déjà mesurer un peu le paysage autour de nous. Bon, ça va déjà, oui, se reposer au phare, c'est là que nous avons...
On peut déposer nos blessés et se reposer un peu.
On a les lits, si on arrive à... Ou alors on descend les lits, ou alors on les monte dans les escaliers, mais en tout cas on va pouvoir les poser un peu. Et se restaurer.
Descendons les lits, ils seront près du feu.
Et vous arrivez à retourner sur le phare. C'est tout pour ce scénario de l'appel de Cthulhu. Je sais que les voix seront frustrées d'apprendre que quelques heures à peine leur retour à la surface, un navire accostait, un navire venu s'enquérir de l'extinction du phare. Il trouvera nos différents protagonistes endormis et emmitouflés dans les couvertures du phare. Il est fort probable que ce scénario ait une suite, mais ce sera une autre histoire. Je vous remercie d'avoir écouté ces 4 premiers épisodes et nous partirons dans un autre contrée et une autre époque la semaine prochaine. J'espère que cette émission vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour arpenter et entendre à nouveau les voix du scénarium.
Wonderful phrase.
Cthulhu Fathagen! Say it and you're crazed!
It means Cthulhu rising out of the haze.
It's a prophecy we'll all soon see. Cthulhu Fathagen!
Cthulhu Fathagen, it's our way of life, it's our motto, it's our credo.
Oh, I hate that.
Hate what?
Han Solo clearly shot first.
Not Greedo, credo.
Oh, sorry.
When he was an outer god.
When I was an outer god.
Yay, did
Cthulhu waits dreaming no longer. He found that his form lacked a certain appeal. All his glistening pseudopods made blood congeal.
I'm a sensitive soul at the end of the day. And it hurt that my friend's flesh all melted away. And all the shame!
Oh, the terrible shame!
What a disgrace!
Falling from grace!
Till I decided to blame!
Whose fault was it?
The whole human race!
Yeah, what would they do in hanging around with an acidic mass of flesh-devouring polyps anyway?
Can I help it if I'm an ick magnet?
Hey.
Cthulhu Fathagen! Now we're in for strange days! It screws up your noggin, turns planets into buffets! And great Cthulhu! Spans whoever obeys. So get off of me, you monstrosity. Cthulhu Fathagen. Cthulhu Fathagen. Cthulhu Fathagen. Cthulhu Fathagen. Cthulhu Fathagen. Cthulhu
Fathagen. Wait. We keep doing this. He's gonna show up.
Cool.
It means Cthulhu rising out of the haze.
It's insanity for humanity. Cthulhu Fathagen.
Cthulhu Fathagen.
Cthulhu Fathagen.
Cthulhu Fathagen. I say Cthulhu.
And I say Fathagen.
If I said Ithaqua.
We need a toboggan. Cthulhu Fathagen. That was a lot of fun. Can we sing another one, please?
Oh, sure thing, my odoriferous pal. Hit it.
Tek-a-lee-lee, 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 tek-a-lee-lee,
tek-a-lee-lee, tek-a-lee-lee, tek-a-lee-lee, tek-a-lee-lee, tek-a-lee-lee, tek-a-lee-lee, tek-a-lee-lee, tek-a-lee-lee. I can't hear you, buddy. Back me up. Hey. Ow, 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 ow! Oh, great Cthulhu! Ow, ow! Oh, stop! I didn't go down with the tentacles! No! Oh, it hurts!
FM.